Dans la vie, beaucoup de gens subissent des coups durs qui peuvent être la conséquence de leur propre stupidité, de la malchance, d'un mauvais sort ou même d'un jugement d'en haut. Peu importe la terminologie, au final, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, détermine le sort de chacun d'entre nous. Noémie, une Israélite originaire du village de Bethléem dans le territoire de la tribu de Juda, a enterré son mari puis ses deux fils dans le pays de Moab. Elle est donc maintenant dans une situation de détresse, accompagnée de sa belle-fille Ruth qui choisit de l'accompagner par amour pour elle. Noémie prend la décision de retourner dans la terre de ses ancêtres, afin de subvenir à leurs besoins. Ruth profite du droit de grappillage qui consiste à passer derrière ceux qui font la récolte, de ramasser ce qui est volontairement a été laissé sur place pour les démunis. Ruth n'a pas peur du soleil, et tôt, le matin, elle prend la direction des champs afin de glaner. Ne connaissant pas la région, elle suit les autres femmes. À cette époque, les hommes coupent les tiges à la faucille. Ensuite, les femmes ramassent les blés et les lient en javel. Puis, les pauvres passent derrière pour récupérer ce qui a été laissé sur place. Je continue à lire dans le chapitre 2 du livre de Ruth. Il arriva par hasard qu'elle se trouva dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Élimélec. Les textes sacrés n'enseignent jamais le fatalisme, c'est-à-dire que ma vie est programmée d'avance sans que je puisse en altérer le cours. Par contre, les Écritures ne nient pas l'existence du hasard, c'est-à-dire la rencontre fortuite d'un ensemble de circonstances sans lien de causalité entre elles. Cependant, et comme je l'ai déjà dit, Dieu est souverain, ce qui veut dire que rien ne se fait dans son univers sans qu'il le veuille. C'est lui qui conduit ma destinée, mais sans pour autant empiéter sur ma liberté et ma responsabilité. À mon niveau, je ne peux pas vraiment réconcilier dans ma tête le fait de la volonté divine d'une part et de la possibilité de faire mes propres choix d'autre part. Marchant main dans la main, ce que je sais est que ces deux composantes se situent sur des plans différents. L'une se passe dans le royaume de Dieu et l'autre ici-bas sur terre. Tant que je les considère dans leur propre sphère, alors j'évite la confusion. Ce n'est pas si je ramène ces deux réalités au niveau de ma compréhension humaine qu'elles se contredisent. Je ne veux pas comprendre comment la volonté divine et ma liberté humaine, aussi vraies l'une que l'autre, peuvent fonctionner ensemble. C'est un mystère qui ne nous a pas été révélé. Les Écritures affirment que bien des vérités sont hors de ma portée, comme le dit le texte suivant. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Tout ça pour dire que Dieu se sert des circonstances et des gens, des bons et des méchants, pour réaliser ses desseins. Donc, Ruth sort de chez elle, descend la colline, et là, s'étendent des champs avec des moissonneurs. Comme elle a choisi celui de Boaz, elle ne savait rien de lui, ni même qu'il était un grand propriétaire terrien. Peut-être même ignorait-elle jusqu'à son existence. Nous savons à ce moment du récit que ces deux personnages ne se connaissaient pas. Du point de vue humain, c'est par pur hasard que Ruth choisit d'aller glaner dans le champ qui appartient à la parenté de sa belle-mère. La suite a montré que le hasard de Dieu fait bien les choses et que c'est sa main qui dirige tout. Je continue le texte. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse, Boaz !» demandèrent aux serviteurs qui étaient responsables des moissonneurs. « À qui est cette jeune femme ?» Le responsable des moissonneurs lui répondit, « C'est la jeune Moabite, qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. Bose rend visite à ses serviteurs et leurs salutations témoignent de leur piété. Ça commence bien. Puis il remarque la jeune femme qu'il n'avait jamais vue auparavant et qui glane en y mettant tout son cœur. Tout naturellement, Bose demande « Qui est cette nouvelle glaneuse ?» car dans une société tribale, toute femme appartient à quelqu'un. Le contremaître donne 3 informations à son maître. Ruth est attachée à Noémie. Elle a demandé la permission de glaner, car ce droit n'est pas automatique pour les étrangers. Et troisièmement, elle met beaucoup d'ardeur au travail. Je continue. Bose dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit aux serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va boire aux cruches qui sont remplies. » En tant que Moabite, Ruth ne pouvait pas espérer être traitée avec respect et n'avait aucun droit à l'eau précieuse qu'on devait apporter du puits et en petite quantité. Mais par égard à Noémie, sa parente, Bose s'adresse à Ruth comme s'il était son père. Elle pourrait sans doute l'être, car il est plus proche de Noémie en âge que de Ruth, qui est encore une jeune femme. Bose lui donne aussi le même droit qu'à son personnel. Elle peut se servir à boire comme ses servantes et demeurer avec elle tout en glanant. Bose est particulièrement bienveillant à son égard, car d'habitude, les pauvres suivent les moissonneurs de très loin afin de ne pas les gêner dans leur travail. De plus, il donne des ordres pour qu'on la laisse tranquille. En effet, en tant qu'étrangère et plantureuse, Ruth risque fort de faire l'objet de la convoitise des hommes qui étaient rustres et considéraient les femmes comme une commodité. Je continue le texte. Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» J'ai déjà dit, dans cette histoire, le texte hébreu contient beaucoup de jeux de mots ici et là, mais il est impossible de les rendre en français. En tant qu'étrangère, Ruth s'attendait à une certaine dose d'animosité à son égard de la part des Israélites, mais c'est tout le contraire qui se passe. Elle est donc très surprise par l'attitude du Seigneur des lieux et est reconnaissante pour le traitement de faveur qu'il lui accorde. Elle répond par un signe de profond respect, une attitude d'humilité courante dans le Proche-Orient ancien et qui apparaît souvent dans les Écritures. Cependant, Ruth cherche à savoir pourquoi elle est si bien traitée. Je continue. Bose lui répondit « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. » « Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Ces paroles rappellent celles que Dieu adressa à Abraham quand il lui dit « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Les nouvelles concernant l'arrivée de Noémie et de Ruth ont vite fait le tour de la petite bourgade de Bethléem. Bose n'avait encore jamais fait la connaissance de cette Moabite, mais il savait déjà tout la concernant. On apprend en passant par les parents de Ruth qu'il était certainement encore en vie, ce qui donne d'autant plus de valeur à son départ du pays de Moab et à son attachement à Noémie. Elle a véritablement tout quitté et coupé tous les ponts avec sa patrie. Bose montre de la bienveillance envers Ruth parce qu'elle-même a été très compatissante envers sa belle-mère qui, par Elimelech, son mari décédé, est parent avec Bose. Il faut aussi noter que le fait que Ruth soit moabite ne gêne certainement pas Bose, parce que lui-même est un arrière-petit-fils de Raha, la prostituée cananéenne qui accueillit les espions israélites et les cacha, une histoire racontée dans le livre de Josué. Je continue le texte. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait, et que le Dieu d'Israël soit la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Comme je l'ai déjà dit, ce qu'a fait Ruth est une démarche qui engage à vie. Cependant, elle a tout à y gagner, car en renonçant à sa patrie et aux idoles moabites et en choisissant l'Éternel, Ruth s'est placée au bénéfice de l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. Elle est donc sous la protection de l'Éternel. La formule de bénédiction qu'utilise Bose est une belle métaphore qui est souvent reprise dans les psaumes et par Jésus. Quand une mère poule étend ses ailes sur ses petits pour les protéger, le prédateur ne peut pas les voir. Pareillement, le Seigneur prend soin et la défense de ceux qui se confient en lui. Je continue. Ruth dit, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois même pas au rang de tes servantes. » Noémie n'a jamais encouragé Ruth à venir avec elle à Bethléem. Au contraire, elle a tout fait pour qu'elle retourne dans sa famille, car elle savait que la vie risquait d'être dure pour sa belle-fille, parce qu'elle est une étrangère et sans protecteur masculin. Mais c'était sans compter sur Dieu, et pour l'instant, les choses tournent plutôt bien. Ruth est récompensée pour sa compassion envers sa belle-mère par cet homme puissant qui la prend sous ses ailes, pour ainsi dire. Cela a dû lui faire chaud au cœur, car elle ne s'attendait pas à tant de bienveillance. Je continue. À l'heure du repas, Bose lui dit, « Approche-toi et viens prends un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs, et Bose lui offrit des épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Bose sait très bien que Ruth vient ramasser ce qui est laissé aux pauvres, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa belle-mère. Il est touché par la bonté de cette jeune moabite dont il admire la générosité. C'est pourquoi il se montre de plus en plus gentil avec elle et ne la laisse pas se débrouiller toute seule. Il l'invite au bon repas préparé pour ses serviteurs. En fait, elle est même mieux traitée que les autres puisqu'il donne davantage de nourriture de ce qu'elle peut manger. C'est pour Bose une façon indirecte de pourvoir aux besoins de Noémie, sa parente par alliance, sans l'humilier en lui faisant la charité. Je continue. Quand elle retourna pour glaner, Bose ordonna à ses serviteurs, « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. » Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. » Alors que Ruth retourne glaner, Bose devient encore davantage généreux envers elle. Il va bien au-delà de ce que requiert la loi afin de lui permettre de faire une abondante récolte. Je continue. Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Normalement, le grain est foulé par les animaux, mais en petite quantité, on bat le fléau. Ce fut une dure journée de labeur, mais aussi extrêmement profitable. D'habitude, la récolte d'un glaneur, après une longue journée de travail, sous un soleil brûlant, est bien maigre. Mais à la tombée de la nuit, Ruth a environ 25 kilogrammes d'orge dans sa bodasse. Les deux veuves ne vont pas mourir de faim, surtout que ce n'est que le début de la moisson et qu'elle sera suivie par celle du blé. Je continue. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi, après qu'elle fut rassasiée, et elle les lui donna. Noémie est surprise par la quantité d'orge et le copieux repas de midi que ramène Ruth. Elle se rend compte que Ruth est tombée sur un propriétaire qui est bien généreux. Les ténèbres de Noémie commencent à se dissiper, elle aperçoit une lumière au fond de sa nuit de chagrin. Je continue. Sa belle-mère lui demanda « Mais où donc as-tu pu glaner aujourd'hui ? Dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention !» Alors Ruth raconta à sa belle-mère chez qui il avait travaillé et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille « Que l'Éternel le bénisse ! L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajouta « Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont envers nous le droit de rachat. » L'exclamation joyeuse de Naomi traduit son émerveillement. Malgré ses malheurs, Dieu ne l'a pas oublié et a manifesté sa bonté en conduisant Ruth vers le champ de Boaz. Dans cette rencontre providentielle, Noémie discerne la main de Dieu et voit renaître son espérance. Ce riche propriétaire est un proche parent, sans doute un cousin de son mari Élimélec, et donc l'un de ceux qui ont le droit de rachat des terres non encore vendues qui appartiennent à son mari décédé. Elle entrevoit déjà la possibilité d'un dénouement heureux. Comme toutes les familles de toutes les tribus d'Israël, son mari Élimélec possède un héritage qui lui est revenu en propre lors du partage du pays effectué par Josué. Mais quand une famille a éclaté et s'est prolongée, Élimélec a certainement été obligé d'en vendre une partie, suite à quoi il quitta Israël avec sa femme et ses enfants pour émigrer dans le pays de Moab. Selon la loi de Moïse, toutes les possessions d'Élimélec retourneront au propriétaire originel ou à sa descendance lors du jubilé. Cette disposition légale est une des merveilleuses ordonnances divines qui régissaient la société civile agraire israélite. Les textes de loi qui établissent le jubilé et l'année sabbatique ont plus de 3000 ans, mais ils sont révolutionnaires et je pèse mes mots. Je lis un passage. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du cor au travers du pays. Vous déclarerez année sainte cette 50e année et, dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera sa possession et sa terre, et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne lèse son compatriote, vous fixerez le prix d'achat ou de vente d'une terre en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé. Et donc, du nombre d'années de récolte jusqu'au prochain jubilé. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé ou faible, car en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul de vous ne laisse donc son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois, et vous les appliquerez, ainsi vous demeurerez dans le pays en sécurité, et la terre vous donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous mènerez une existence paisible. » Il y a déjà bien longtemps, le chanteur britannique John Lennon du groupe des Beatles a composé un tube à grand succès qui s'appelle « Imagine ». J'aime bien cette chanson parce qu'elle fabrique un monde idyllique qui me fait penser à ce que l'Éternel avait en vue quand il a établi l'année sabbatique et l'année du jubilé. Tous les 6 ans, les terres étaient laissées en friche. Et pendant ce repos sabbatique, les indigents pouvaient librement aller récolter ce qu'ils avaient poussé tout seuls dans les champs, dans les vignes et sur les arbres. Dieu rappelle ainsi à son peuple qu'il n'est que locataire de ce sol, car c'est lui l'Éternel, le vrai propriétaire. Cette pratique a pour but de créer chez l'Israélite un état d'esprit de dépendance, de confiance, de reconnaissance envers Dieu et aussi de compassion envers son prochain nécessiteux. De nos jours, les ventes sont définitives et les locations se font au moyen d'un bail. Mais l'Éternel avait une meilleure idée. Après un cycle de 7 fois 7 années révolues, on célébrait l'année du jubilé. Cette fête revenait ainsi tous les 50 ans, 2 par siècle. Non seulement en cette année-là, la terre se reposait comme lors des repos sabbatiques, mais les propriétés qui avaient été hypothéquées retournaient à leurs propriétaires ancestraux. D'autre part, les Israélites qui avaient été obligés de se vendre ou plutôt de se louer comme travailleurs forcés recouvraient leur liberté. Et cela, quel que soit leur maître, Israélite ou étranger établi dans le pays. Ça, c'est du vrai progrès social et un vrai coup de génie prévu par la loi de Moïse. Je rêve à ce que notre monde pourrait être si ce système de répartition des richesses était étendu à l'ensemble de la planète ou même seulement à la France.